Je vous le disais un petit peu plus tôt à l'émission qu'il y a du nouveau dans l'histoire et la saga du décès de M. Jacques Tisdale et de son traitement à l'hôpital avant sa mort. Vous avez déjà entendu son fils, Olivier Tisdale, avec nous, nous raconter l'histoire et comment cette histoire-là progresse aussi. Il y a du nouveau. On demande maintenant la suspension de deux médecins. Olivier va nous parler de tout ça. Tout d'abord, je te salue. Bon matin, Olivier.
Ouais.
Je peux-tu demander juste un petit exercice? T'sais, je veux pas l'étirer trop, mais pour les gens là, qui seraient peut-être pas, parce que des fois, on prend pour acquis. Hein? Tu viens nous jaser, puis on se dit, peut-être tout le monde est au courant de l'histoire et de la saga. Juste un petit résumé là, qui nous mène à aujourd'hui la discussion qu'on va avoir.
Oui, on peut vous faire ça. Écoute, en décembre 2020, mon père a passé une tomo-densitométrie à l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui, à l'époque, la radiologiste, en fait, la technicienne médicale qui a fait le rapport, mentionne qu'il y a un adénocarcinome in situ sur le poumon gauche.
Okay.
Il envoie ça à son pneumologue, un suivi en janvier 2021, pour ensuite prévoir un suivi un an plus tard, donc en décembre 2021. Malheureusement, dans l'histoire, on apprendra que le suivi ne sera jamais venu. Mm-hmm. Et puis, trois ans et demi plus tard, on apprend que mon père a un cancer des poumons stade 4 là, à l'urgence de l'hôpital Saint-François d'Assise. Un urgentologue qui vient voir mon père dit « Écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Et puis, on y diagnostique un cancer des poumons stade 4, là, très avancé, déjà en mai 2024.
Et ensuite, ce qui suit dans l'histoire, qui est vraiment pas... Déjà, là, c'est pas le fun, ce qui se passe là, c'est ensuite le traitement à l'hôpital.
Exactement. Il y a eu des mauvais soins du début, aller pratiquement jusqu'à la fin. Écoutez, ça a été un calvaire. Quand on dit « il a vécu un calvaire », l'expression est faible. Par contre, il a vécu ça, donc on l'image très bien en disant qu'il a vécu un calvaire parce qu'il a été mal soigné, on ne changeait pas ses pansements, on le laissait dans ses urines, dans ses excréments. Ça n'a pas été facile de voir, tu sais, une personne que t'aimes voir souffrir de cette manière-là par la maladie, puis ensuite le voir souffrir par des mauvais soins. Puis là, il est carrément abandonné.
Ouais.
Justement, tu en es où par rapport à ça? Parce que je sais qu'il y a une enquête de fait par le commissaire, justement, aux plaintes. Il y a aussi le coroner qui a pris la situation de son côté. As-tu des nouvelles? Y a-tu du développement de ce côté-là?
Exactement. Écoute, on a rencontré à la sortie des studios il y a deux semaines. On a rencontré déjà le commissaire Rousseau à l'hôpital Saint-Sacrement. Il nous a fait il a fait l'exercice de ce que lui allait faire dans les prochaines semaines. On parle pratiquement une enquête qui va durer, dans son cas, peut-être pour 3 mois.
Okay.
Il nous a bien expliqué la situation, comment il allait travailler, qui allait rencontrer. Ça, c'est important. Après ça, le lendemain, on rencontrait aussi le coroner, un individu très, très sympathique. Puis je pense que dans tous les intervenants qu'on va avoir vus dans cette histoire-là, le coroner Martin Clavette, c'est une personne qui est importante pour nous, puis on accueillait cette investigation-là positivement. Parce qu'il a pris le temps de nous vulgariser, il a pris le temps de nous expliquer qu'est-ce que lui allait faire comme coroner. C'est quand même le coroner qui a fait l'enquête sur Lac Mégantic puis l'écrasement de Jean Lapierre, un ancien journaliste de TVA. Donc c'est quelqu'un
très
qui
gros dossier.
Oui, c'est un monsieur qui est respecté dans son milieu. Puis je peux vous dire que pour ma mère et moi qui l'avons rencontré, on est sortis de là en se disant il y a quelqu'un qui écoute mon père maintenant.
Mm-hmm.
Ça, c'est important pour nous parce que c'était pas arrivé depuis les 8 derniers mois qui étaient en arrière de nous, puis cette personne-là a pris le temps de nous expliquer puis de bien nous faire comprendre qu'est-ce qui allait arriver dans le dossier.
Et Olivier, ça nous amène à aujourd'hui et dans les derniers jours que vous demandez la suspension de deux médecins. Pourquoi et pourquoi maintenant?
Écoute, on a plusieurs oncologues qui nous ont parlé dans les derniers jours, qui sont venus nous expliquer comment ça se serait passé si mon père avait été opéré en 2021.
Alors qu'il était au stade zéro là, de son cancer.
Au stade zéro, exactement. Ce qu'on nous a expliqué, c'est que même il n'y aurait pratiquement pas eu de traitement. Il aurait été opéré. Il serait parti de là, convalescence de quelques semaines. Il serait revenu à la maison. Puis aujourd'hui, il serait encore avec nous.
Une autre histoire totale.
Un chemin complètement différent. Donc, ça nous amène à, demander la suspension de deux médecins. Puis des fois, j'entends des gens me dire « Ouais, mais si on enlève deux médecins du réseau, il y a des gens qui ne seront pas soignés. » Mais des fois, dans la vie, il faut faire un choix. Puis je pense que on veut être bien soigné, mais on ne veut pas être oublié. Ces médecins-là ont oublié la vie de quelqu'un. C'est pas rien, hein? Oublier la vie de quelqu'un, puis la fatalité, dans le cas de cet oubli-là, ça reste la mort. C'est un petit mot, mais qui reste la mort, qui est hyper important. Donc, on a demandé au ministre qu'il suspende ces deux médecins-là. On a vu dans les derniers jours qu'ils ont réagi en retirant la balle au Collège des médecins, puis à peu près tout ce qui est autour de lui. Mais ce qu'on disait, c'est que si Bernard Drinville est capable de suspendre un enseignant qui a crié après des enfants ou même y enlever son brevet, je pense que le ministre de la Santé, de son côté, peut prendre lui aussi, acte, puis dire, hey, je pense qu'on a deux médecins dans le réseau qui ont causé la mort de quelqu'un. Donc, le temps de l'enquête, on va les suspendre pour voir après ça où est-ce qu'on va aller avec ces médecins-là. Est-ce qu'ils ont besoin de formation? Est-ce qu'ils ont besoin d'être revus? Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On l'apprend maintenant, mais ça n'a pas fonctionné, puis mon père en est décédé.
Mm-hmm. Es-tu tanné du manque de sensibilité du ministre Dubé? Il ne veut pas te rencontrer. Il repitche la balle au Collège des médecins. Et je trouve que ça manque d'humanisme de sa part.
En fait, je regardais la réponse qu'il a faite à la télévision.
Oui, j'ai vu le même reportage que toi.
Dimanche soir, qu'on l'a tous vu. C'est un peu le même pitch collé, si on veut, pardonnez-moi l'expression anglaise, c'est le même pitch collé qui a répondu en mai 2024 en disant « la situation est inacceptable, on souhaite les meilleurs vœux pour la famille », mais c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande d'agir. Puis à un moment donné, à répondre toujours la même chose, c'est pourrais-tu que le ministre va m'amener descendre de son bureau et dire « regardez, là, on va agir nous autres aussi de notre côté ». C'est facile de dire « on va demander au collège des médecins de régler ce dossier-là, on va demander au coroner de régler ce dossier-là, on va demander à M. Rousseau de régler ce dossier-là ». Comme ministre, vous allez faire quoi? Parce que son collègue Bernard Drainville, forcé d'admettre qu'en éducation, il a ouvert une enquête la semaine passée sur le réseau des taxes scolaires, ce qui s'est passé à Montréal. Il a suspendu une professeure, comme on disait, qui criait après les élèves.
C'est un ministre proactif comme
exactement,
ça que tu voudrais voir.
Exactement. Si on avait un ministre proactif comme ça, peut-être que la santé commençait à marcher mieux au Québec. Parce qu'on se rend compte que ça va pas mieux. Je regarde encore les nouveaux commentaires qu'on a sur le dernier post qu'on vient de faire, puis c'est encore la même chose. J'ai vécu telle situation. Mon père a vécu telle situation. Je vous disais, hier, j'ai fait le décompte, hier, des messages. On a plus de 5500 messages depuis les trois derniers mois.
Ah, avec de mauvais traitements.
De mauvais traitements, d'histoires, puis des choses. Tu sais, oui, il faut les valider, je comprends. Mais par contre, tu vois que les gens sont sincères. C'est arrivé. Puis malheureusement, c'est dans notre système de santé.
J'allais te demander, est-ce que ça te surprend encore maintenant que chaque fois tu fais une publication du genre, il y a autant de réactions, autant de témoignages?
Je dirais que oui. Je suis obligé de dire oui. Pardon. Le système de santé devrait être fonctionnel au Québec pour une qualité extrême. Je pense qu'on doit avoir une bonne qualité du système de santé. Puis chaque fois que je lis une histoire, ça me fait friser le poil des bras. Ça n'a pas de sens. Les gens sont malheureux, les gens souffrent dans nos hôpitaux, puis comment on va pouvoir régler ça si le ministre, un jour, décide pas de sortir de sa tour d'ivoire et venir dire « je vais aller rencontrer les gens sur le terrain ». Il y avait un politicien qui va rencontrer les gens sur le terrain, ça fait pas deux mauvais politiciens, ça fait un politicien qui va aller voir ce qui se passe, qui va pouvoir dire « oh, attendez, il y a quelque chose qui fonctionne pas ».
Ouais. Juste pour bien comprendre, puis pour mon cerveau et le cerveau des auditeurs en même temps, il y a deux particularités dans le dossier de ton père. Il y a les mauvais traitements à l'hôpital et il y a le mauvais diagnostic ou l'absence d'action à la suite du premier diagnostic. Est-ce que le coroner regarde les deux ou c'est juste le mauvais traitement? L'ensemble du dossier, donc, va regarder les deux.
Comme le coroner nous a dit, c'est pas les mauvais soins qui ont tué mon père, mais ils ont certainement pas aidé à améliorer sa qualité de vie. Mm-hmm. Puis pour finir ta vie, je pense que quand tu sais que tu vas mourir, je pense que tu veux finir ta vie avec une grande dignité.
Clairement.
Puis au moins être bien avec les gens qui t'entourent et pas passer ton temps à te battre pour avoir des soins parce que tu sais que la fin de ta vie est proche. On sait qu'on va tous passer un jour. Mm-hmm. Mais quand ta fin de vie est proche, tu veux pas te battre pour obtenir des soins, tu veux te battre pour être bien.
Olivier, une question en deux parties. De un, c'est quoi le niveau de confiance qu'on va aller de l'avant avec une suspension des deux médecins? Et de deux, personnellement, est-ce que tu en veux maintenant qu'on sait que l'histoire aurait pu être très différente pour ton père? Est-ce que tu en veux personnellement à ces deux médecins-là?
Pour la confiance, je vous dirais que je garde confiance. Je pense qu'on mène un combat qui est legit, en anglais. Je pense qu'on mène un beau combat. Je pense qu'on l'a toujours bien fait. On n'est pas avec une approche toujours négative. Je pense qu'on y va pour se battre. Puis on a confiance qu'à un moment donné, ça va arriver. Pour ce qui est des médecins, écoutez, c'est surtout de la colère.
Ouais.
C'est de la colère de nous avoir enlevé un individu que nous, on aimait, qui est mon père. Puis ensuite de ça, bien, c'est aussi autour. C'est d'avoir pas permis à mon père de pouvoir se battre également avec la maladie. Ces gens-là n'ont pas d'empathie aujourd'hui. T'sais, ces gens-là ne viendront pas dire « on s'excuse », ces gens-là ne viendront pas dire à mon père que mais malheureusement, ce qu'on a fait, c'était pas correct, il est décédé. Mais jamais on va sentir d'empathie de ces gens-là. Puis c'est malheureux, puis c'est ce qui nous amène la colère.
Ouais. C'est ce qui doit justement être le plus dur, de voir ce manque d'empathie-là. Puis là, je fais un parallèle sûrement boiteux, mais on parlait tout à l'heure du maire Marchand puis des politiciens qui ont de la misère à dire « hey, je m'excuse, je l'ai manqué, celui-là, regardez, guys, je ne le refais plus, puis je recommence ailleurs. » T'aimerais ça entendre ça des médecins?
Tu sais, que tu te lèves debout à suite d'une erreur, j'en fais des erreurs dans ma vie, puis je vais les assumer. Quand tu es médecin, si tu fais une erreur, je pense que tu dois te lever puis t'assumer, puis être imputable de ton erreur. Mm-hmm. Parce que si on n'est jamais imputable de rien, puis ce que je disais dans d'autres entrevues, si on n'est jamais imputable de nos erreurs, comment ça peut fonctionner?
Il y a du laxisme qui peut s'installer aussi.
Ouais. Tu peux devenir beaucoup plus paresseux. puis si oh, j'ai fait une erreur, il est décédé, mais il avait 74 ans. Mm. Tu sais, on entend ça souvent, votre père serait mort bientôt, il avait 74 ans. Oui, mais il avait le droit de profiter de sa vie à 74 ans, pareil, parce que toute sa vie, il a travaillé.
Absolument, absolument. Olivier Tisdale, tu le sais, c'est toujours un plaisir quand tu passes nous voir. On est bien heureux à Rage Against le matin de prendre des nouvelles, puis de suivre. J'aime cette saga-là en souhaitant, comme c'était la dernière fois, avec plus ben souvent oui. des bonnes nouvelles que ben des oui. moins bonnes, mais parce que je trouve personnellement que pour toi, je sais que c'est un combat pour toi, pour ta famille aussi, mais je le sais aussi que tu le fais pour les autres, parce Absolument. Qu'il y a tellement de témoignages de situations semblables. Fait que je sais que tu mènes un combat pour le bien de notre système de santé et de notre population.
Absolument, puis on ne lâchera pas pour personne autour.
Cool. Tu repasses nous voir bientôt?
Absolument.
Salut, Olivier.
Hey, merci. Bonne journée à vous tous.
Salut. Boulevard.